Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine qui fait coup double chaque soir en avant-première. Ça commence sur le net dès 18h, donc sur franceinter.fr et en podcast. Et puis la version est plus classique, c'est 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, vengeance au programme de nos deux invités et ils ont l'Italie en commun. Valeria Bruni-Tedeschi explose au théâtre dans la trilogie de la vengeance, une mise en scène sophistiquée, complexe, à tiroir, un tour de force pour les comédiens, pour une histoire de famille au lourd secret, viol, inceste, domination sociale, une tragédie contemporaine pour vous. Valeria Bruni-Tedeschi, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Roberto Saviano devrait arriver. Il arrive, ça y est, la porte s'ouvre, encore auréolé de son ours d'argent pour le scénario du film Piranha, c'était à la Berlinale. Au programme de son nouveau roman, un gang de jeunes mafieux napolitains, Baiser féroce, c'est le titre, poursuit l'enquête commencée en 2006 du côté de Gomorra. 13 ans plus tard, le monde a changé, nouveau parrain, nouveau système politique. Roberto Saviano est un auteur de premier plan et l'ennemi public numéro 1 de Matteo Salvini. Il est notre invité, il va s'installer. Roberto Saviano, bonsoir.
Buonasera.
Bonsoir. Parfait. Comme ça, on sait qu'il est là. Et dans le NRV, la suite, si d'action, 25 ans plus tard, on en est où? Mobilisation ou fiction, Benoît Lagane?
Oui, à 3 jours de ce week-end anniversaire, on fait le point sur l'opération médiatique et le travail de prévention, mais aussi sur l'avancée de la recherche sur le VIH. Alors, pour en parler, Florence Thune et Sérawit Bruglandé du si d'action, et à leur côté, Daniel Messager, journaliste spécialiste santé à la rédaction de France Inter, et Sullivan Le Postec, scénariste et créateur de la série Les Engagés.
Eh bien, parfait. On vous retrouve tout à l'heure. Le générique, c'est fini. Alors c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc c'est vengeance et violence au programme pour vous deux. Valeria Bruni-Tedeschi, c'est au théâtre dans la trilogie de la vengeance, une mise en scène de Simon Stone. Et vous, Roberto Saviano, avec un nouveau roman, Baiser féroce, gros plan sur de très jeunes gangsters de Naples. Vous vous connaissez l'un, l'autre?
Et de personne, non. Mais
non, personnellement pas.
Comme actrice, je la connais.
Mais bien sûr, comme actrice, je la connais très bien.
Merci beaucoup, dans mon temps. Me piace
depuis très longtemps et j'aime beaucoup.
Et comme ça,
j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son âme.
Ben oui, parce qu'en plus, en Italie, elle a une carrière aussi italienne, c'est ça, hein, Valeria?
Oui,
ben oui, quand même.
Je travaille dans les deux pays et c'est très important pour moi de travailler dans les deux pays parce que je me sens profondément italienne. Et aussi, quand je réalise mes films, ils sont toujours... double. Il y a toujours, c'est toujours des familles italiennes qui vivent à Paris, donc il y a toujours cette double
nationalité, cinématographie,
culture, inconscient.
Vous vous connaissez pas, vous non plus, mais vous voyez de qui il est.
Non, moi évidemment, je l'admire beaucoup.
Depuis combien de temps? Vous regardez un petit peu ce qu'il fait?
Oui, bah ça fait longtemps.
En italien, on vous parle de lui aussi quand vous allez. Enfin, il y a quelque chose.
Oui. Oui, bah, y a beaucoup de choses qui se font tirer de ces films, beaucoup d'œuvres cinématographiques, de télévision, et puis sa personne, l'oxygène qu'il a mis dans la vie de notre pays, qui sûrement a été très cher payé pour lui, mais qui pour nous a été un grand vent de liberté et qui est toujours un grand vent de liberté.
Très cher payé, puisqu'on rappelle qu'il est sous protection policière depuis 2006, depuis la sortie de Gomorra. On va y revenir. Valeria Bruni-Tedeschi, vous êtes au théâtre dans une pièce hyper complexe à jouer. On va y revenir. Un tour de force pour des acteurs et des actrices surtout, parce qu'il y en a 7 virtuoses. Ça va bien? Ça se passe bien? Parce que la première a été retardée, hein, pas mal de temps, justement.
Oui,
et on
oui.
s'est dit, oula, ça doit être super difficile à jouer.
Oui, non, c'était difficile surtout à créer, parce que le metteur en scène a écrit pendant les répétitions et a créé tout, enfin voilà, c'était comme un work in progress, disons, et son écriture qui est d'ailleurs, je trouve, magnifique par moments, et enfin la plupart du temps très très belle, très étonnante, et ça se passe dans 3 décors différents, et on est donc 8 acteurs et chacun joue
combien de rôles?
5 rôles.
En même temps.
En même temps.
Dans 3 lieux différents.
Dans 3 lieux différents, le public change
de lieu.
Voilà. Mais disons, ça, c'est le dispositif scénique et de mise en scène. Disons que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond de ce qu'on raconte. J'ai l'impression, on est parti de 3 pièces du 16e siècle anglais, de Titus Andronicus de Shakespeare, de Dommage qu'elle soit une putain de John Ford et de L'échange de Middleton. On a lu ces pièces et on s'est rendu compte que les personnages de femmes de ces pièces étaient des personnages très caricatureux, oraux, et qui étaient là un peu, c'était soit des vierges, soit des femmes incestueuses, soit des putains, soit elles existaient presque pas. Alors que les hommes avaient des personnages très complexes.
Très importants et très complexes dans ces pièces.
Voilà.
Donc là, c'est la revanche des femmes.
On a la revanche des personnages, c'est-à-dire qu'il a écrit des personnages de femmes qui se vengent d'une certaine façon de ces pauvres personnages de cette époque-là. Voilà.
Donc c'est ça aussi la trilogie de la vengeance.
Disons
la vengeance n'est pas simplement l'histoire qui est racontée, mais c'est aussi la vengeance des femmes sur les personnages de fiction de l'époque.
Et sur l'homme blanc avec le pouvoir de l'homme blanc à travers les siècles de l'histoire.
Jamais écrit pour le théâtre, Roberto Saviano. Écrit pour le cinéma, avec un scénario, je viens d'en parler. Écrit pour des séries.
Pour le théâtre, simple réduction.
Pour le théâtre, ça a toujours été plutôt des versions réduites.
Ah oui,
livres,
quand même, ça a été joué alors.
Si, si. Gomorra a avoué un peu
réduction théâtrale. Oui, parce que Gomorra, par exemple, il y a eu une adaptation au théâtre. Même chose pour Piranha également.
Tous les ragazzini du quartier Sanità.
Avec effectivement tous les jeunes du quartier de Sanità qui étaient sur scène.
Qui étaient sur scène, oui.
Et puis, évidemment, les sceneggiatures.
Avec mise en scène, évidemment, des films, ça c'est l'autre partie.
Ça c'est l'autre partie. Roberto Saviano, journaliste, écrivain, scénariste, vous venez de recevoir donc l'Ours d'argent à la Berlinale pour le scénario de Piranha, c'est le titre en français. Vous explosez en 2006 avec Gomorra, c'était une plongée documentée, très documentée, dans les milieux de la mafia, la Camorra qui a mis votre tête à prix. Aujourd'hui vous êtes traduit dans 37 langues, vous enseignez à la New York University. Est-ce que les questions de journaliste sont d'ordre littéraire ou vous devez commenter systématiquement l'actualité politique de votre pays?
Lo sento come un compito.
C'est un devoir, c'est comme ça que je le sens.
Ma nel senso, tutto va totalmente veloce.
Tout va tellement vite.
Che è compito secondo me dell'intellettuale rallentare.
Je crois que aujourd'hui le travail de l'intellectuel c'est ralentir.
Provare a spaccare queste
pietre
che vengono lanciate.
Ces pierres qui sont lancées à tout va
dal ministro.
Par le ministre, en l'occurrence notre ministre.
Et quindi più che un dovere sento che nel momento
devoir, je ne sais pas, je dirais que plus à partir du moment où on travaille avec les mots,
devi provare a smontare la propaganda.
On doit essayer de démanteler la propagande.
Vous êtes traduit dans le monde entier, donc vous devez circuler absolument partout pour vos romans. Il y a des pays où vous êtes perçu de façon très différente.
Ah, certo.
Pensez à quoi?
Bah oui, évidemment.
Quasi ogni paese ha una lettura diversa.
Puisque chaque pays a sa propre lecture.
Par exemple, i paesi latini, sudamericani.
Dans les pays latins, d'Amérique latine en particulier.
Sono più abituati a fare, per esempio,
on est peut-être plus habitué, probablement, à entendre le mot condamné à mort.
Et quindi hanno un atteggiamento.
Dès lors.
Ascolto,
l'accueil, enfin, l'accueil c'est une écoute, mais de gens qui ont déjà connu ça, qui connaissent ce mot.
Svezia,
si on prend l'exemple de la France, de la Suède, ce sont, je le dirais, les lieux idéaux, par exemple, lorsqu'on vit cette forme de persécution en raison des mots qu'on a pu prononcer ou employer. Pays de l'Est, pour la plupart, détestent ce que je fais.
L'Hongrie, en questo momento,
la Hongrie, notamment.
Turquie,
Malte, par les temps qui courent, voient en moi un manipulateur, voire un magouilleur. Enfin, pas tout le monde, évidemment.
Vous êtes invité là-bas?
Rarement.
On peut l'imaginer. Alors, juste une autre question aussi, parce que vous faites partie aussi même de la culture française. J'ai vu que vous étiez cité régulièrement par des rappeurs français, SCH, PNL. Vous les avez rencontrés, Roberto Saviano? Vous saviez que vous étiez un modèle pour une partie du rap français?
Ah, si, si, mi piacciono molto.
Ah, moi, j'adore.
Mi piacciono molto.
J'aime beaucoup.
PNL, oui. Vous les avez rencontrés?
Si, si. Ci siamo incontrati. Oui,
on s'est rencontrés.
Leur vidéo. Le Mondo Rien.
Et leur vidéo.
Et mi è molto piaciuto perché
j'ai beaucoup aimé leur vidéo.
Ouais, c'est le clip
du monde de rien.
Girato a Napoli, a
Scampia. Elle a été tournée à Scampia, donc dans un quartier de Naples. Et
ci siamo trovati perché il concetto è la periferia.
Et on s'est vraiment rencontrés parce que leur idée c'est la banlieue est seule et il n'y en a qu'une.
Da Parigi à Napoli.
Autant dire que qu'on soit à Marseille, à Paris, à Mumbai ou à Naples, la grammaire de la banlieue, elle a sa logique et c'est toujours la même.
Pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé à chacun des sons qui vous ont marqué ou qui vous ont construit. Le premier, il est italien, il est iconique pour vous, Valeria Bruni-Tedeschi.
Marcello, come here.
Pas très original.
Pas très original, c'est ça, Valeria Bruni-Tedeschi?
Pas très original, mais voilà, j'aime l'entendre. J'aime entendre ce prénom, j'aime Mastroianni, j'aime tout ce que cet appel Marcello me évoque en moi. C'est voilà.
Vous l'avez rencontré?
Non, malheureusement, j'ai jamais rencontré Mastroianni. Je serais tombée amoureuse.
Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ce son rappelle quelque chose aussi pour vous, j'imagine. C'est ce genre de cinéma que vous regardiez. Roberto Saviano.
Ah, c'est certo. Mastroianni.
Oui.
Riferimento
et
assoluto.
Comment Mastroianni, c'est la référence absolue.
Mais là,
c'est vraiment cette petite partie-là qu'on vient d'entendre. C'est vraiment l'hymne à la vie.
C'est ça.
Dans la Dolce Vita. Un bruit un peu plus violent peut vous faire confiance, Roberto Saviano. C'est bref. Vous avez demandé un coup de pistolet. Je me suis demandé, la première fois que vous avez entendu ce son, c'était quand?
Terza media.
Donc j'étais au collège à ce moment-là, 14 ans.
Sembra strano, ma per esempio quando c'erano i morti.
Ça peut sembler bizarre. Mais quand il y avait des morts.
Io e alcuni anche miei coetanei andavamo a cercarli.
Et nous bien sûr et avec mes copains aussi les gens de mon âge, on allait les voir ces morts. Mais on n'avait pas peur.
Vedere un morto ammazzato.
Parce que voir quelqu'un qui a été tué.
Significava essere entrati grandi.
À l'époque, ça voulait dire que si on était là, c'est qu'on faisait partie des grands.
Sono nato nel 79.
Je suis né en 79.
Negli anni 80-90 ci furono delle guerre violentissime di mafia.
80-90, les guerres ont fait rage entre les différentes mafias, jusqu'à 3-4 morts par jour parfois.
Et guardarli.
Et les voir. Significava ces morts, c'était se dire voilà. J'accède au monde des grands.
Non, non, un ricordo di.
Alors, je n'ai pas de souvenir en particulier de souffrance ou de traumatisme.
La violence en Italie, vous l'avez connue ou presque. En fait, vous ne l'avez pas connue parce qu'on vous a protégé de cela.
On vous
a évacué d'Italie.
Oui, je l'ai connue intérieurement parce que j'ai je l'ai connue dans mes fantasmes, dans mes peurs nocturnes, dans le fait que j'ai dû partir de l'Italie à 9 ans parce que on était menacés de d'enlèvement et
par les brigades rouges.
Problème c'est que moi j'ai fait ma cuisine intérieure d'enfant. Moi je pensais qu'on était menacé par les brigades rouges et d'ailleurs bon j'ai fait un film là-dessus, j'ai fait le plus facile pour un chameau. D'ailleurs je donnais raison à mes ravisseurs éventuels et potentiels parce que je trouvais que ils avaient des idéaux comme ça qui me plaisaient et donc je rêvais en fait qu'ils m'enlèvent et en fait je pensais qu'ils allaient beaucoup m'aimer en m'enlevant et qu'ensuite j'arriverais à appeler mes parents et qu'ensuite j'arriverais à mettre tout le monde d'accord. Donc j'avais cette espèce de fantasme de syndrome de Stockholm, je crois.
Exactement. Ouais.
Voilà. En fait, bon, la réalité, c'est que les enlèvements, c'était la mafia, c'était les menaces, c'était la mafia, c'était pas les brigades rouges, parce que les brigades rouges n'enlevaient pas d'enfants, et que j'avais fait un espèce de mélange personnel. Mais on a quand même dû quitter l'Italie, et j'ai vécu toutes ces années-là dans la peur et dans le sentiment de culpabilité, surtout. J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de mal, puisqu'on devait s'en aller.
Roberto Saviano, de votre côté, vous comprenez ce que dit Valeria Bruni-Tedeschi? Est-ce que, de votre côté, votre famille a pu être menacée à l'époque, racketée?
Oh, si, capisco quello... Qu'elle dit Valéria, parce que...
Bien sûr, je comprends ce que dit Valéria. C'est-à-dire que c'était les années, effectivement, des enlèvements.
Il
suffisait d'être enfant de pharmacien pour être une cible potentielle de tous ces enlèvements.
Tra l'altro, c'est très difficile. Sequestri che
et puis, à travers
per esempio, oggi
les
molto
enlèvements,
forte,
et bien justement, la 'Ndrangheta a fait sa force actuelle, c'est-à-dire qu'elle s'est enrichie grâce à ces enlèvements à ce moment-là, parce que l'argent qu'ils avaient récupéré avec les enlèvements, ils le recyclaient dans la cocaïne.
La questione familiare
et donc, bien sûr, la question des proches, de l'entourage, de la famille, c'est terrible.
La cosa di cui io più mi pento, insomma,
c'est la chose dont je me mords le plus les doigts, bien sûr.
Parce que io sono qui, parlo.
Moi, je suis là, je parle, ça devient un travail, j'allais dire. Et pendant ce temps-là, ma mère, mon frère, eux, ils sont tapis, ils doivent se cacher.
Ils doivent se cacher, ils sont protégés, vos proches,
oui,
votre famille est protégée.
Diverse de la mienne, ma chère, si.
Oui, une protection différente de la mienne, mais ils sont sous protection également, oui.
Un autre son de souvenirs d'enfance aussi pour vous, Valéria Brunet-Tedeschi. C'est un son purement français, hein, je vous avertis, Roberto Saviano. Valéria ?
Oui, ça c'était le générique d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot.
L'émission littéraire, de livres.
Littéraire, de livres, quand j'avais 10-11 ans, qui passait le vendredi soir à 21h30. Et je crois que, bon, moi j'ai toujours eu ma plus grande passion, c'est pas le cinéma, c'est les livres. Et je crois que ma passion pour les livres a énormément évolué et pris de l'ampleur grâce à cette émission et à ce présentateur qui était totalement passionné, bienveillant, précis, très très précis. Son amour de la précision du mot m'a... Et je me souviens, j'avais 10-11 ans, toute seule, je suppliais mes parents de... Enfin voilà, c'est très très fort pour moi, cette émission.
Vous avez des souvenirs comme ça d'auteurs qui crevaient l'écran à l'époque ?
Ben, j'ai pas vu, je les ai vus après, les émissions mythiques de Duras, de...
Bukowski,
de... Voilà, de... Aussi, comment il s'appelle ?
Il y avait Nabokov aussi.
Oui, celui qui a changé de nom, enfin, j'ai un trou là... Émile Ajar et...
Gary et
Romain Gary. Ça, je les ai vus après. Là, je me souviens, non, j'ai des souvenirs de plateau, de ses lunettes qui baissaient, qui remontaient, et de sa tendresse pour les écrivains.
Il y avait l'équivalent en Italie, une émission purement littéraire à la télévision, Roberto Saviano.
C'est stato Baricco.
Oui, il y a Baricco.
Poi Fabio Fazio con cui ho lavorato anche
e
molto.
Fabio Fazio aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Diverso da, ouais, da Pivot.
Dans un autre esprit hein, que Pivot,
però,
bien sûr.
Insomma, che io, cioè, me ne hanno sempre parlato come...
C'est vrai qu'on m'en a toujours parlé comme d'une référence absolue, de la légende.
Ici en France. Un autre son qui est en rapport avec le premier pour vous, hein, Roberto Saviano. Quelle vie.
Sirena, et questa è una sirena non della d'ambulanza, ma
une sirène, et c'est pas la sirène de l'ambulance, c'est la sirène de la police. Je crois.
Ci ho fatto abitudine alla sirena perché anche per venire qua sono arrivato in sirena.
Je me suis habitué par la force des choses parce que même pour venir ce soir ici, j'ai entendu la sirène.
È strano perché le persone credono sia un privilegio.
Et c'est étrange parce que les gens se disent ah mais c'est un privilège la sirène. En fait,
invece è ansiogeno, mette ansia.
C'est très anxiogène,
in realtà è fatta perché non, diciamo, in una situazione di allarme non dovresti fermarti ai semafori.
C'est fait pourquoi? Pour dire, on est dans une situation d'allarme, d'alerte, et il ne faut pas s'arrêter, c'est ça que ça veut dire.
In genere, insomma, si può andare anche più tranquilli. Però è diventata, non credevo nella vita mai di dover avere così un rapporto vicino.
J'avoue que je ne pensais pas, je n'avais pas imaginé avoir un jour un rapport aussi intime ou familier avec les sirènes.
Il n'y a pas de courage sans peur, je serre les dents, quand c'est le temps qui prend, Je fais un piano, le passé vient frapper comme une gauche. Je serre les dents, le corps qui d'un coup se désaccorde. Va piano, toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano.
Va piano, c'est signé Hervé, c'est la nouvelle signature du label Initial qui produit Eddy De Pretto, Aloïs Sauvage qu'on recevait hier, Clara Luciani, Angèle Columbine, à suivre donc de très près en 2019.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que je suis censée faire ?
T'as vraiment aucune idée ?
Peut-être.
Ton père a besoin d'argent, il t'a envoyé ici chez un homme.
Mais vous êtes une femme.
Oui, mais je suis là pour vérifier que tout est intact.
Intact ?
Bah, là en bas avec toi.
Le nouveau rendez-vous ? Laurent Goumard.
Alors, je vais aller me préparer. Tu devrais t'étendre sur le lit, sous les couvertures, sur la serviette et enlever ton slip.
Non, mais vous voulez que je...
Étends-toi fasse... sur le lit, s'il te plaît, sous les couvertures, sur la serviette et enlève ton slip.
Sur France Inter.
Alors là, je n'en reviens pas, Valéria Brunet-Tedeschi, avec cet extrait de la trilogie de la vengeance que vous jouez actuellement à l'Odéon Théâtre Atelier Berthier. Car comme moi, je vous ai vu au théâtre, vous n'étiez pas du tout dans ce rôle-là. On va parler de la pièce, hein, on va bien la définir, mais juste une chose, ça veut dire que les rôles tournent systématiquement.
Ça
vous
veut
n'avez
dire
pas de rôle défini.
Spectateur qui vient voir la pièce.
Selon le jour, en plus.
Non.
Ah bon?
Non. Tous les jours, c'est pareil. Mais selon le groupe de spectateurs dont il fait partie. Il y a le groupe A, B et C. Et selon le groupe, vous allez voir la même pièce, mais avec un déroulement différent. C'est-à-dire que
ça,
vous allez commencer par un décor différent.
On va en parler, ouais.
Voilà. Et avec une distribution d'actrices différente. C'est-à-dire que vous m'avez vu dans certains rôles, mais un spectateur qui était dans le groupe C ou dans le groupe A m'a vu dans d'autres rôles que vous ne verrez jamais. Voilà. Comme ce rôle dont vous entendez les mots, mais que vous n'avez pas
du tout soupçonné en effet cela.
Donc on joue chacune 5 rôles.
Mais ça doit être...
Pendant 3 heures tous les soirs.
Donc voilà. Vous êtes complètement crevé.
On est fatigué. Ouais.
Vous êtes surpayé pour jouer synchro.
Pas du tout.
Je peux imaginer.
C'est le théâtre public.
Une pièce chorale, 7 femmes. Allez, je vais quand même les citer. Donc, il y a vous, Valéria Brunet-Tedeschi. Il y a Servan Ducor, Adèle Exarchopoulos, Eye Aïdara, Pauline Lorillard, Nathalie Richard, Alison Valence, un homme, Eric Carabaca, pour une histoire de famille avec inceste entre frères et sœurs, viol, domination patronale. On prend les repères.
Crime.
Hein. Crime aussi.
Et vengeance.
On se prend des repères, c'est difficile car il y a 3 lieux, 3 décors.
Et 3 époques.
Et 3 époques. Un restaurant, La scène, qu'est-ce qui s'y passe? C'est par là où j'ai commencé.
Oui.
Une scène de mariage.
Oui. Une scène de mariage où la mariée a été abandonnée. Le mari est pas...
Il vient pas.
Il est venu, il s'est marié, puis il a disparu de la fête de mariage. Et on comprend peu à peu que... qu'en fait, il s'est marié par obligation, pour cacher une terrible honte qui est que il est amoureux de sa sœur, qu'ils sont amoureux, sa sœur et lui, et que même sa sœur est enceinte de lui. Donc tout part de ce, disons, de cette scène originelle. De cet amour incestueux.
Ça, c'est si on commence par le restaurant. On peut aussi commencer par la chambre d'hôtel. C'est l'extrait qu'on entendait.
Par la chambre d'hôtel, on commence par un homme qui rentre dans une chambre d'hôtel et qui découvre sa fille et qui comprend que sa fille de 16 ans vient de coucher avec un garçon, donc qui est fou de rage, mais qui ensuite, et qui ne sait pas qu'elle vient pas de coucher avec juste un garçon, elle vient de coucher avec son frère. Voilà, ça c'est le début de l'hôtel.
De l'hôtel. Et il y a aussi le bureau. Moi j'ai fini par là.
Le bureau, c'est un homme avec un sac en plastique sur la tête. Dans un bureau où des femmes l'ont tué. Voilà, en 2019. Donc les...
On traverse combien d'époques? Ça commence en...
Ça commence en 1987. Ensuite, il y a une époque qui est 2004 et il y a une troisième époque qui est 2019.
Vous vous y retrouvez, Roberto Saviano? Traduction, oui. Hélène Joguet. Vous imaginez mais donc la complexité qu'il y a à jouer ça?
Non, mais je pense que le travail du spectateur,
énorme,
que le spectateur doit faire, fait partie du plaisir bien du sûr. Spectacle. C'est-à-dire que le spectateur, c'est très ludique pour lui. C'est pas du tout... C'est pas un problème.
Ah non, pas
ça,
du tout.
Ça apporte de la joie d'essayer de se dire « Ah, mais qui c'est? Mais quand c'est ?»
Et surtout,
ça.
Il y a un plaisir supplémentaire, c'est quand on comprend, en fait, que d'autres spectateurs sont en train de voir une autre pièce se jouer et qu'on voit les acteurs rentrer d'une scène à l'autre en sachant que, par ailleurs, ils vont jouer d'autres rôles. Donc, il y a vraiment un plaisir aussi intellectuel à regarder cette pièce. Oui. Ça se passe comment, le travail avec Simon Stone? Parce qu'il est réputé pas si facile. Il vous a cassé?
Non, pas du tout. Il est formidable.
Oui.
Moi, je pense qu'il a du génie. Voilà. Je le dis pas souvent. Je pense qu'il a du génie. Je pense qu'il c'est un écrivain. Il nous a donné, je trouve que parfois, il y a des scènes qui sont, du point de vue littéraire, pour moi, sont vraiment moins bonnes, mais il y a des scènes absolument fulgurantes de beauté, de poésie, de simplicité. Je pense que c'est un grand, grand directeur d'acteurs. Je pense que c'est un visionnaire. Je pense que c'est un grand metteur en scène. Après, je pense aussi qu'il est jeune, qu'il est dans un moment de sa carrière de toute puissance, qu'il a beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, je trouve qu'il est parti très vite, quoi. Je trouve qu'il aurait dû rester au moins une semaine ou deux semaines
pour
de plus
accompagner.
Pour nous accompagner. Et ça, moi, j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène dans ma vie, comme Chéreau, comme Bellocchio, comme Noémie Lvovsky, et tous ces metteurs en scène ont une chose en commun, c'est qu'ils mettent les acteurs en grande, grande, complète priorité. Et ça, je trouve que il a toutes les capacités, mais il est parti un peu vite. C'est la seule critique. Mais sinon, le spectacle, au bout du compte, n'en pâtit pas parce qu'on a repris les choses en main. Et on est un groupe très soudé.
Ça vous a soudé en fait, ouais.
Ouais, on est très soudé. C'est avec des gens humainement merveilleux et artistiquement.
Mais quel type de directeur d'acteur il est? Vous avez
fait affaire. Formidable. Il est.
C'est-à-dire, il est avec vous sur le plateau. Il vous donne des consignes de loin. Il mime les choses.
Il peut venir. Il joue. Il mime pas. Il joue. Et c'est un merveilleux acteur. Il nous parle en peu de mots. Il nous donne des indications très profondes. Et il nous demande aussi un jeu, pour moi c'était très nouveau, c'est ce que j'aime, jamais forcé, on joue avec des micros, c'est jamais, jamais, jamais théâtral, et l'émotion elle vient pas, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais la demande de l'émotion, et ça je trouve ça fantastique.
Et vous comme directrice d'actrice, ou d'acteur, vous êtes comment ?
Moi, ça m'a énormément plu de le voir travailler.
Bah, vous avez quand même une certaine, maintenant,
oui, mais ça m'a,
un travail.
Ça m'a nourri, c'était films. Une chose. Ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie de travail, c'est les nouveautés. Donc ça a été une nouveauté pour moi dans ma vie de travail, Simon Stone. Et de le voir travailler, je ne suis plus la même. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire des choses où je me sens différente après.
C'est-à-dire que par exemple, sur un film, vous allez abandonner vos acteurs avant ?
Non, pas du tout. Ça, c'est la seule vraie critique pour moi, c'est une loi, c'est absolument impossible. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses de lui que j'ai attrapées, que je garderai. Et voilà, je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que ma vision des acteurs et du théâtre a changé.
Alors, en parlant de théâtre, le théâtre, c'est aussi une histoire familiale, on va dire, chez vous. Bon, vous avez commencé, on le sait, avec Chéroux, mais déjà à l'époque, votre père était, on va dire, industriel le jour et directeur artistique du théâtre de Turin le soir.
Sovrintendente del Reggio, oui. Oui. Il était, c'était un compositeur.
Oui.
Et il avait le travail de composition le matin très tôt. Après, il allait justement à son usine, à l'usine de son père, qui à l'époque s'appelait la Cheat. Et ensuite, le soir, il dirigeait le théâtre de Turin après l'incendie, quand il a été rénové après le grand incendie qu'il y a eu. Et oui, c'était un très très, enfin vraiment, c'était un musicien avant tout, mon père.
De votre côté, quelle place avait la littérature dans votre famille, Roberto Saviano, vous qui êtes devenu écrivain, scénariste, journaliste, essayiste.
Ma mère est professeure de géochimie.
Ma mère est professeure de géochimie.
Mio padre era medico condotto.
Et mon père était médecin.
Però insomma la passione per il racconto mi viene dai miei nonni materni.
Moi je dirais que ça vient de mes grands-parents maternels, cet amour du récit, de l'histoire.
Sono stati discendevano direttamente da Mazziniani.
Et ils étaient vraiment des descendants de l'époque de Mazzini, de
il risorgimento
Mazziniani,
dal centro,
donc
sempre.
Le Risorgimento, toute cette époque. Où l'histoire italienne était tellement importante.
Oui, donc véritablement une autre histoire. Tout de suite, je vous propose de faire le questionnaire 100% France Inter. Il est pour vous, Valéria Brunet-Tedeschi.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous, vous savez, ça c'est normal.
Mais tellement rare aujourd'hui.
Donc ça, c'est rien que pour vous, le questionnaire 100% France Inter. Ce sont des questions des stars de la chaîne, des questions qui ont déjà servi, elles ont déjà été posées, donc des gens y ont déjà répondu. On les recycle. Deux questionnaires pour vous. Château ou chameau ?
Chameau.
Première question, Laure Adler.
Quelle image aviez-vous des garçons quand vous étiez une adolescente ?
Ça, c'est une question à nouveau. Ah, tout de suite, une autre question. D'accord. Quelle image des garçons quand j'étais une adolescente ? C'était la chose la plus importante.
Léa Salamé.
Pourquoi est-ce que les artistes ont de plus en plus de mal à s'engager aujourd'hui ? On vous sent tous extrêmement prudents. Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux ? Vous avez peur de dire un truc qui va vous piéger, de perdre une partie du public ?
Non, moi j'aime pas parler de ce que je connais pas profondément. J'aime pas dire des choses politiquement correctes parce que c'est bien de les dire comme tout le monde les dit. Donc je préfère ne rien dire ou alors dire des petites choses, mais qui sont arrivées de réflexions vraies, profondes et honnêtes. Voilà.
Troisième question, Augustin Trapenard.
Qu'est-ce que vous trouvez tragique, vous, en ce moment ?
Tragique. Je trouve déjà le fait qu'on ne s'écoute pas. C'est Simon Stone, il nous disait quelque chose pendant les répétitions qui a été très... que je trouve... dit, ne vous écoutez pas. C'est la première fois qu'un metteur en scène me dit ça. Ne vous écoutez pas. Parce que si on s'écoutait, il n'y aurait pas de tragédie. Si les gens s'écoutaient vraiment, 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 il n'y aurait pas de tragédie. Il y aurait beaucoup moins de tragédie. Après, il est évident qu'il y a une tragédie qui est la mort, qui va au-delà de notre contrôle. Mais quand même, les tragédies humaines, les tragédies dans les rapports humains, viennent beaucoup du fait qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas.
La trilogie de la vengeance, Valeria Bruni Tedeschi, c'est jusqu'au 21 avril à l'Odéon Théâtre de l'Europe, Atelier Berthier, à Paris. Il y aura une tournée ?
Non.
Non, c'est trop difficile. Bah oui, heureusement. C'est vrai qu'elle en endure tous les jours. On va retrouver Roberto Saviano dans quelques instants. On va parler littérature, mais on va parler aussi politique. Tout de suite, le cinéma l'a beaucoup occupé, mais Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, revole à nouveau vers l'électro-démonstration, avec bien sûr un titre de circonstance de Gévilta.
Sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo. Soffro di tutto ma non soffro il freddo. La mia città mi tiene al caldo, guerriero moderno. Quando mi sveglio forse è meglio che ritorno a letto. Mi guardo allo specchio, sembro Peter Pan da vecchio. Se faccio un figlio nasce un Modigliani, Punani. Se scendo al bar ritorno su domani, Punani. Salvo tua sorella sul telefono come Punani. Guardo le sue foto, mi emoziono, mi sporco le mani. Ehi.
Io non è che ti ho detto che ti amo perché non avevo da fare. Io non è che messaggio ne dipendi a me pensare a guardare.
Ok, 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 ok. Quando mi chiami baby, io sto cadendo Mayday. Fella, vita bella, ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella. E se ti bacio per farti volare, Punani. Ma poi ti abbraccio e non devi scappare, Punani. Siamo io e te contro il mare. Ammazziamo le pare. Rà.
Io non è che ti ho detto che ti amo perché non. Pensaci tu, dai pensaci tu, che da quando non ci sei più non faccio scrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dolce Vita, c'est signé Monsieur Oiseau avec le rappeur italien Fra, un extrait de Rythme Plat, le nouvel EP qui vient de sortir.
France Inter.
Et secondo te, Salvini?
Selon toi, Salvini, ça me fait plaisir de vivre comme ça. Je vis comme ça depuis plus de 11 ans. J'ai une escorte depuis que j'ai 26 ans. Et toi, tu penses me menacer, m'intimider? Ces dernières années, j'ai été sous une pression énorme. La pression du clan des Casalesi. La pression des narcos mexicains. J'ai bien plus peur de continuer à vivre comme ça que d'en mourir. Et donc, tu crois vraiment que je peux avoir peur de toi?
Bouffon.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est vous qu'on entend là, Roberto Saviano. C'était l'année dernière, en juin, Salvini, le ministre de l'Intérieur, voulait supprimer votre protection policière qui a commencé, je le rappelle, il y a 11 ans. Depuis, il a fait marche arrière pour la protection, juste pour la protection. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer d'avis d'ailleurs, à changer de position?
Non l'a neanche motivato.
Je ne sais pas, il n'a pas dit, il n'a pas précisé.
À un certain point, a detto,
il a simplement dit à un moment,
sans
s'expliquer, bon,
danno tutti la colpa a me,
si jamais il lui arrive quoi que ce soit, ça va être de ma faute, donc il a laissé tomber finalement.
Il vous attaque en justice, hein, on le sait, pour diffamation. Vous l'aviez qualifié de ministre de la Malavita suite à ses prises de position contre les migrants. Vous avez reçu des soutiens dans ce combat qui vous propulse comme le premier opposant au gouvernement actuel. Est-ce qu'il y a des intellectuels italiens, même au niveau international, qui vous soutiennent véritablement, même politiques en Italie? Roberto Saviano.
C'è stata una solidarietà internazionale.
Oui, il y a une solidarité internationale.
Che mi ha molto stretto.
Qui a vraiment m'a fait du bien, m'a soutenu.
Partita anche dalla Francia.
Y compris d'ailleurs en France, hein, notamment, c'est de là qu'est parti le mouvement de solidarité. En Italie également, avec plus de prudence.
Plus de prudence.
Ça, c'est compréhensible.
C'est compréhensible.
Parce que quand on décide de défendre...
Parce que quelqu'un qui commence à décider de me défendre se fait insulter sur les réseaux sociaux dans la minute. Et puis les gens peurent. Les peurs d'ont pu être invités, de plus être invités à la télévision. Les gens ont peur aussi de ne plus vendre, de plus faire de billetterie pour leurs concerts. Donc je comprends. C'est une situation compliquée en Italie. Se positionner en Italie, ça veut dire qu'on va en payer le prix.
Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Car vous êtes très attaqué, on le sait, notamment en Italie, il y a une campagne qui cherche à vous discréditer sur le plan personnel. Je lisais, par exemple, en traduction, bien entendu, ce que le magazine Panorama avait dit de vous, c'est-à-dire un magazine quand même, donc qui est, on va dire, acheté par la droite, il y a quand même pas mal d'années. Un magazine qui révèle le nom de votre femme, qui révèle le nom de vos amis, qui révèle vos relations, qui révèle votre réseau amical, votre réseau professionnel, qui donne des adresses. Qu'est-ce que vous attendez de...
Ça fait des années qu'ils essayent.
Non ci riescono.
Mais ils n'y arrivent pas.
Et per fortuna, come dire, soltanto un rumore di fondo miserabile.
Heureusement, c'est un bruit de fond misérable, rien de plus.
Detto questo, mi aspetto un processo lunghissimo.
Ceci étant, il va y avoir un procès fleuve.
Ouais.
È solo l'inizio.
Et on n'en est qu'au début.
L'Italia sta diventando sempre più simile all'Ungheria.
De plus en plus, l'Italie ressemble à la Hongrie.
Et la cosa più difficile.
Et ce qui est le plus difficile,
far comprendere fuori dall'Italia.
C'est sans doute faire comprendre à l'extérieur de l'Italie ce qui se passe chez nous.
Par exemple,
vous avez l'impression qu'on mésestime ce qui se passe, qu'on sous-estime ce qui se passe en Italie, qu'on n'en mesure pas du tout les conséquences.
Absolument, c'est tout à fait ça. Les gens ne se rendent pas compte.
Par exemple, la histoire de la divisa.
Vous voyez, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui porte littéralement l'uniforme de la police. Ça, c'est du jamais vu. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça dans quelque démocratie que ce soit. Et c'est quelque chose de très grave. Parce que le message qui est envoyé, c'est le suivant, c'est dire le gouvernement et l'État ne font qu'un, en réalité.
Et ça,
c'est le début de la voie vers l'autoritarisme.
On va parler du roman dans quelques instants. Juste une question. Je sais que vous habitez New York et que vous habitez entre New York et Rome. Est-ce que vous êtes en contact avec Salman Rushdie ou Orhan Pamuk, c'est-à-dire des écrivains qui subissent la même vie que vous, la protection policière, l'exil?
Oui, avec Salman Rushdie.
Ci conosciamo da molto tempo.
Oui, on se connaît depuis longtemps.
Et... lui a vissuto, come dire, 20 anni
il a vécu fatwa. 20 ans de fatwa.
Et ha scritto un libro bellissimo su questo.
Il a d'ailleurs écrit un très beau livre sur cette expérience. Joseph Anton.
Credo sia tra i più bei libri che abbia mai scritto.
C'est un des plus beaux livres qu'il ait écrit à mon sens. Et je dirais qu'il m'a aidé techniquement à essayer de survivre dans une situation comme celle-là.
Soprattutto su un tema. Che è quello del non sentirsi in colpa di essere vivi.
Il y a notamment cette question de on se sent pas vivant au plan corporel. Cette problématique-là.
Valérie, un brunet
d'esquive. De ne pas se sentir coupable d'être vivant.
Et quindi ho la sensazione che sia il punto più difficile perché.
Et ça, c'est probablement le point le plus difficile.
Come se intorno le persone vedendoti vivo pensassero.
Parce que on se dit, les gens vous voient, ils se disent, il est vivant, c'est donc que c'est un imposteur.
Aujourd'hui, donc, un nouveau roman, c'est Baiser féroce, après Piranha. La fiction, donc, c'est pour raconter l'histoire d'un baby gang mafieux à Naples, des bébés mafieux qui ont pris la place des parrains de la Gomorra, puisqu'ils sont tous morts. En fait, vous faites un gros plan sur le parcours de jeunes garçons, des Paranzini, c'est ça, qui se sont lancés dans la carrière criminelle. Et dans le livre Baiser féroce, ils sont vraiment au sommet de leur carrière, engagés à venger la mort de leurs complices, mais aussi à étendre leur empire, c'est-à-dire retrouver la puissance de frappe des parrains historiques de la mafia. Vous êtes passé à la fiction, ça veut dire que l'enquête, comme au temps de Gomorra, ce livre enquête, c'est fini ou plus difficile, j'imagine, pour vous? Auprès de qui vous vous documentez? Comment vous arrivez à mener encore des enquêtes pour des romans aussi documentés? Roberto Savino.
In realtà, il metodo è lo stesso.
En fait, la méthode est la même.
Et Gomorra era una non-fiction novel.
Effectivement, c'était de la non-fiction.
De la non-fiction pour Gomorra, oui.
Pour Gomorra.
Per Piranha, per Bacio Feroce.
Et pour Piranha, pour Baiser Féroce. Là, ce que je fais, c'est que je recueille en fait des informations judiciaires, les écoutes.
Ho intervistato i sopravvissuti.
Des entrevues, aussi des entretiens de gens qui. De survivants.
Mi manca la strada.
Ce qui me manque, je dirais, c'est la route.
Mi manca sporcarmi con la strada.
C'est-à-dire vraiment me confronter à cet échange dans la rue. Mais paradoxalement, j'ai plus d'informations aujourd'hui que ça pouvait être le cas précédemment. Et là, j'ai voulu faire, comme vous le disiez, une fiction. Pourquoi ? Pour entrer dans ce que sont ces jeunes, ces enfants, ces gamins. Et je ne voulais pas en rester, bien sûr, à leur extérieur, à leur peau.
Non, non, aller jusque dans leur vie de famille, en effet.
C'est ça, exactement, entrer dans leur vie de famille. Et puis, je voulais aussi, surtout peut-être, essayer de prouver, de montrer ce que ressent un enfant qui est amené à tuer.
Un attimo prima crede sia un gioco.
Et jusqu'à l'instant qui précède, il se dit c'est un jeu.
Et
là, ça n'est plus un jeu du moment où ce choix est devenu quelque chose d'irréversible.
Vous saviez qu'on avait changé de génération dans la mafia, Valeria Bruni-Tedeschi ?
Non.
À partir de quel âge, aujourd'hui, les jeunes entrent dans la criminalité ? À partir de 10 ans, c'est ça ?
Ouais. Qui c'è
dans Piranha, ils avaient 10 ans. Là, ils sont beaucoup plus vieux. Ouais.
C'è un ragazzino di 10
là,
anni.
Effectivement, dans Baiser Féroce,
ils sont inspirés.
Il y a un garçon de 10 ans. Je me suis inspiré, bien évidemment, d'une histoire vraie.
Et le plus piccolo avait 10 anni,
le plus jeune avait 10 ans et le plus grand 19.
Et c'est une histoire abbastanza unica nel senso
c'est une histoire,
che,
je veux dire, assez unique, parce que c'est pas, si vous voulez, un petit baby gang.
Sono proprio arrivati per 5 anni
sont,
ai vertici dell'organizzazione.
Vraiment des gens qui pendant 5 ans ont accédé au sommet de l'organisation.
Consapevoli di morire.
En sachant qu'ils allaient mourir, qu'ils mouraient.
Et nessuno di loro pensa di sopravvivere.
Et en
loro
fait,
scelte.
Personne parmi ces jeunes ne pense pouvoir survivre au choix qu'ils ont fait.
Vous disiez qu'il y avait un personnage qui était inspiré d'un personnage réel. J'imagine que c'est Nicolas Fiorillo. En tout cas, dans le roman, il s'appelle Nicolas Fiorillo. Dans la réalité, il est inspiré de qui ? Roberto Saviano ?
Tra i personaggi che mi sono ispirato.
Je me suis inspiré de plusieurs personnages. Il y en a deux, essentiellement un.
Emanuele Sibillo.
Emanuele Sibillo.
Che è stato un capo.
Qui est un chef justement de ses parents, ça.
Che è stato
de ces groupes de jeunes. Et qui a été tué. À l'âge de 19 ans.
Et que...
Mais à l'âge de 19 ans, il avait... Alors, si c'est bien celui-là, à l'âge de 19 ans, il avait déjà deux enfants. C'est bien lui.
En réalité, le second, lui, on l'a vu naître.
Effectivement. Enfin, encore que le deuxième enfant, il ne l'a pas vu naître. Il a été tué pendant qu'elle était encore enceinte.
Stiamo parlando di un ragazzino che...
C'était un jeune.
Par exemple, quand andava a scuola, era brillante.
Qui était brillant à l'école, par exemple, quand il y allait.
Et scriveva bene.
Qui écrivait bien.
Et lentamente ha iniziato a trasformarsi.
Et puis peu à peu, il a commencé à changer.
Ha iniziato poi a decretare morti su morti.
Et puis après, il a donc tué des gens.
Ed è come dire il giorno del suo diciottesimo compleanno chiede.
Et le jour de ses 18 ans.
Tramite un post dice festeggiatemi molto perché
il fait un post sur un réseau dit célébrez mon anniversaire parce que j'aurai jamais 21 ans.
E così andrà.
Et c'est, ce
et c'est effectivement comme ça.
Est-ce que ça vous inspire Maria Bonetti de ski?
Non, j'écoute. Je j'ai très envie de lire le livre et voilà, c'est très bouleversant.
Moi, ce qui m'avait frappé, parce que j'ai relu un petit peu Piranha pour préparer l'entretien, et je me souviens que dans Piranha, ces jeunes, qui sont quand même catholiques, portaient la barbe et avaient comme se présentaient comme des djihadistes, en fait. Alors même qu'ils étaient de la mafia et qu'ils étaient catholiques. Ça, c'est la part de la fiction ou c'est aussi...
C'est réel.
Hanno queste barbe lunghe.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils portent la barbe longue. Comme les djihadistes.
Mais oui, c'est très étrange.
Ils écrivent à la Akbar sur Facebook.
Sont tous
bien qu'ils soient tous catholiques, ils font tous la communion, etc.
Et, loro adorano Daesh.
Ils adorent Daesh.
Perché Daesh non ha paura di niente.
Parce que Daesh n'a peur de rien.
Parce qu'elle
tue tout le monde sans aucune limite dans le meurtre.
Et surtout pour obtenir ce qu'ils veulent, ils meurent.
Et puis, c'est les gens qui meurent pour obtenir ce qu'ils veulent.
Vous n'avez jamais pensé vous lancer en politique?
Non, c'est mon travail. Non. Faccio politica con ogni pagina.
Je fais de la politique, si vous voulez, indirectement à travers chaque page que j'écris. En revanche, je ne pense pas avoir la capacité d'être bon administrateur.
Mais ça veut dire qu'on laisse la politique aux mains de gens qu'on ne respecte pas. Roberto Saviano.
Non,
il y a quand même des gens que je respecte en politique.
Simplement,
j'espère que ces gens-là pourront avoir davantage de place. Par exemple, actuellement,
Mimmo Lucano,
c'est quelqu'un que je respecte. Il est maire de Riace et lui, c'est
sotto processo.
Mais qui avait des prises de position pro-migrants, justement. Oui. Et lui, il est en procès.
Oui, des prises de position. Ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Ce qu'il a fait.
Dans son village.
Ce qu'il a créé comme exemple dans le monde, pour le monde. Quand je parlais de vent, d'oxygène et de vent. Voilà, il y a avant et après ce qu'il a fait.
Mais lui aussi, il est en train de payer le prix fort.
Sì, sotto processo.
Ah, oui, bien sûr, lui aussi, il a un procès.
Allontanato da Riace.
Loin de Riace.
Sono stato a Riace, ho visto con i miei occhi.
J'ai vu de mes yeux, parce que j'y suis allé, moi, a Riace. J'ai vu ce qui a été fait. C'est un miracle.
Per esempio, le case dove vivevano i migranti.
Les maisons, les habitations où vivaient les migrants.
Le avevano date ai migranti.
Bon, allora avait été.
I calabresi emigrati in Canada.
Donné par les Calabrais émigrés. Au Canada et en Australie.
Siccome non tornavano più,
et comme c'est des gens qui savaient qu'ils ne reviendraient pas en Calabre, eh bien, ils ont prêté, mis à disposition migranti. Leur maison à ces familles de migrants.
Si era riuscito a creare anche una connessione,
il y avait ce lien qui s'est créé à ce moment-là entre les Italiens qui furent les migrants de jadis et les nouveaux Italiens afro-italiens d'aujourd'hui.
Bah, ce passé d'accueil, d'ailleurs, était au centre du dernier film aussi. Le passé d'accueil de l'Italie était au centre du dernier film de Nanni Moretti, quand il parle des Chiliens qui sont arrivés et qui avaient été accueillis par les Italiens. Baiser féroce est paru chez Gallimard, Roberto Saviano. Gomorra, la série saison 4, ça commence samedi prochain sur Canal Plus Série. Merci à vous
Merci
deux.
Merci beaucoup.
On va se quitter tout de suite avec Jeanne Haddad, une histoire de cœur brisé. Merci beaucoup.
Grazie.
Merci.
A fallen hearts will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through day, the beginning of the week. My strength will know no end, no heart it cannot mend.
Falling Heart, c'était la voix de Jeanne Hadet dans le NRV juste avant son Zénith de Paris, c'est demain soir, et puis le Printemps de Bourges le 19 avril, et les Eurocaennes le 5 juillet, une programmation festival de Jean-Baptiste Audibert. Et bien voilà, le NRV première partie, c'est fini. On remercie Hélène Joguet pour son interprétation simultanée et pour sa voix. On se retrouve aussi dans 15 minutes après le journal, et on sera là avec ça.
Demain, en France, personne ne pourra dire honnêtement « Le sida, je ne sais pas, le sida, je ne connais pas ».
SIDAction, 25 ans plus tard, où en est le combat ? Mobilisation ou fiction ? Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.